Le vampire Arnold Paul. Un paysan de Medreiga, un village de Hongrie, nommé Arnold Paul, fut écrasé par la chute d'un chariot chargé de foin. 30 jours après sa mort, 4 personnes moururent subitement, et de la même manière que meurent ceux qui sont molestés des vampires. On se ressouvint alors qu'Arnold Paul avait souvent raconté aux environs de Kassova, sur les frontières de la Turquie, il avait été tourmenté longtemps par un vampire turc. Mais que, sachant que ceux qui étaient victimes d'un vampire le devenaient après leur mort, il avait trouvé le moyen de se guérir en mangeant de la terre du vampire turc et en se frottant de son sang. On présuma que si ce remède avait guéri Arnold Paul, il ne l'avait pas empêché de devenir vampire à son tour. En conséquence, on le déterra pour s'en assurer. Et quoiqu'il fût inhumé depuis 40 jours, on lui trouva le corps vermeil. On s'aperçut que ses cheveux, ses ongles, sa barbe s'étaient renouvelés et que ses veines étaient remplies d'un sang fluide. Le bailli du lieu, en présence de qui se fit l'exhumation, et qui était un homme expert dans le vampirisme, ordonna d'enfoncer dans le cœur de ce cadavre un pieu fort aigu et de le percer de part en part, ce qui fut exécuté sur le champ. Le vampire jeta des cris effroyables et fit les mêmes mouvements que s'il eût été vivant. Après quoi on lui coupa la tête et on le brûla dans un grand bûcher. On fit subir ensuite le même traitement aux 4 personnes qu'Arnold Paul avait tuées de peur qu'elles ne devinssent vampires à leur tour. Malgré toutes ces précautions, le vampirisme reparut au bout de quelques années, et dans l'espace de 3 mois, 17 personnes de tout âge et de tout sexe périrent misérablement, les unes sans être malades, les autres après 2 ou 3 jours de langueur. Une jeune fille nommée Stanoska s'étant couchée un soir en parfaite santé, se réveilla au milieu de la nuit, toute tremblante, jetant des cris affreux et disant que le jeune Mio, mort depuis 9 semaines, avait manqué de l'étrangler pendant son sommeil. Le lendemain, Stanoska se sentit très malade et mourut au bout de 3 jours de maladie. Les soupçons se tournèrent sur le jeune homme mort, que l'on pensa devoir être un vampire. Il fut déterré, reconnu pour tel, et exécuté en conséquence. Les médecins et les chirurgiens du lieu examinèrent comment le vampirisme avait pu renaître au bout d'un temps si considérable, et après avoir bien cherché, on découvrit qu'Arnold Paul, le premier vampire, avait tourmenté non seulement les personnes qui étaient mortes peu de temps après lui, mais encore plusieurs bestiaux dont les gens morts depuis peu avaient mangé, et entre autres le jeune Mio. On recommença les exécutions, on trouva 17 vampires auxquels on perça le cœur, on leur coupa la tête, on les brûla et on jeta leurs cendres dans la rivière. Et ces mesures éteignirent le vampirisme dans Medreiga, jeune fille flamande étranglée par le diable. L'aventure qui suit eut lieu le 27 mai 1582. Il y avait à Anvers une jeune et belle fille, aimable, riche et de bonne maison, ce qui la rendait fière, orgueilleuse, et ne cherchant tous les jours par ses habits somptueux que les moyens de plaire à une infinité d'élégants qui lui faisaient la cour. Cette fille fut invitée, selon la coutume, à certaines noces d'un ami de son père qui se mariait. Comme elle n'y voulait point manquer et qu'elle se réjouissait de paraître à une telle fête, pour l'emporter en beauté et en bonne grâce sur toutes les autres dames et demoiselles, elle prépara ses plus riches habits, disposa le vermillon dont elle voulait se farder à la manière des Italiennes, et comme les Flamandes surtout aiment le beau linge, elle fit faire 4 ou 5 collets dont l'aune de toile coûtait 9 écus. Ses collets achevés, elle fit venir une habile repasseuse et lui commanda de lui empeser avec soin 2 de ses collets pour le jour et le lendemain des noces, lui promettant pour sa peine la valeur de 24 sous. L'empeseuse fit de son mieux, mais les collets ne se trouvèrent point au gré de la demoiselle, qui envoya chercher aussitôt une autre ouvrière à qui elle donna ses collets et sa coiffure pour les empeser, moyennant un écu qu'elle promettait si le tout était à son goût. Cette seconde empeseuse mit tous ses talents à bien faire, mais elle ne put encore contenter la jeune fille, qui, dépitée et furieuse, déchira et jeta par la chambre ses collets et coiffures, blasphémant le nom de Dieu et jurant qu'elle aimerait mieux que le diable l'emportât que d'aller aux noces ainsi vêtue. La pauvre demoiselle n'eut pas plutôt achevé ses paroles que le diable, qui était aux aguets, ayant pris l'apparence d'un de ses plus chers amoureux, se présenta à elle, ayant à son cou une fraise admirablement empesée et accommodée avec la dernière élégance. La jeune fille, trompée et pensant qu'elle parlait à un de ses mignons, lui dit doucement « Mon ami, qui vous a donc si bien dressé vos fraises? Ah, voilà comment je les voudrais !» L'esprit malin répondit qu'il les avait accommodés lui-même, et en même temps il les ôte de son cou, les met gaiement à celui de la demoiselle, qui ne put contenir sa joie de se voir si bien paré. Puis, ayant embrassé la pauvrette par le milieu du corps, comme pour la baiser, le méchant démon poussa un cri horrible, lui tordit misérablement le cou et la laissa sans vie sur le plancher. Ce cri fut si épouvantable que le père de la jeune fille et tous ceux de la maison l'entendirent et en conçurent le présage de quelque malheur. Ils se hâtèrent de monter à la chambre, où ils trouvèrent la demoiselle roide morte, ayant le cou et le visage noir et meurtri, la bouche bleuâtre et toute défigurée, tellement qu'on en reculait d'épouvante. Le père et la mère, après avoir poussé longtemps des cris et des sanglots lamentables, firent ensevelir leur fille, qui fut ensuite mise dans un cercueil, et pour éviter le déshonneur qu'ils redoutaient, ils donnèrent à entendre que leur enfant était subitement mort d'une apoplexie. Mais une telle aventure ne devait pas être cachée. Au contraire, il fallait qu'elle fût manifestée à chacun afin de servir d'exemple. Comme le père avait ordonné de tout disposer pour l'enterrement de sa fille, il se trouva que 4 hommes forts et puissants ne purent jamais enlever ni remuer la bière où était ce malheureux corps. On fit venir 2 autres porteurs robustes qui se joignirent aux 4 premiers, mais ce fut en vain, car le cercueil était si pesant qu'il ne bougeait pas plus que s'il eût été fortement cloué au plancher. Les assistants épouvantés demandèrent qu'on ouvrît la bière, ce qui fut fait à l'instant. Alors, ô prodige épouvantable, il ne se trouva dans le cercueil qu'un chat noir, qui s'échappa précipitamment et disparut sans qu'on puisse savoir ce qu'il devint. La bière demeura vide, le malheur de la fille mondaine fut découvert, et l'Église ne lui accorda point les prières des morts.